RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
Sur RMC, salut à tous, soyez les bienvenus. C'est l'Intégral Sport, comme tous les week-ends de l'année évidemment, nous sommes ensemble jusqu'à 17h. L'événement de l'après-midi, c'est bien sûr le Grand Prix de France de Formule 1, une course à suivre en intégralité sur RMC avec la Dream Team RMC Sport, Jean-Luc Roy et Denis Chevrier. Grand Prix que l'on va vous présenter à partir de 14h30. Je vous rappelle que c'est Charles Leclerc qui partira en pole position. Dans un instant, on va revenir sur la qualification des Françaises pour les demi-finales de l'Euro. Victoire 1-0 face aux Pays-Bas hier en prolongation. Jeannot Rességuier viendra nous raconter cette folle soirée. À 13h25, direction la Tour Eiffel, le grand départ du Tour de France femmes, une première depuis 1989. On en parlera avec Pierre Thévenet. Puis à 13h40, la Ligue des Nations de volleyball, une finale France-États-Unis ce soir. Les Bleus qui ont explosé le pays hôte, l'Italie, hier 3-7-0. C'est parti pour l'Intégral Sport. Elles ont enfin brisé la malédiction des quarts de finale. Après 10 années passées loin du dernier carré des grandes compétitions, les joueuses de l'équipe de France se sont qualifiées hier soir pour les demi-finales de l'Euro. Une victoire en prolongation face aux Pays-Bas. On rappelle que les Néerlandaises étaient tenantes du titre. Jeannot Rességuier vous a fait vibrer si vous l'avez écouté hier soir. Salut Jeannot.
Bonjour tout le monde.
Hey Jeannot, on va se faire plaisir. On réécoute ce que ça donnait sur RMC hier.
Avec Eve Périsset pour frapper le pénalty. Eve Périsset qui a la possibilité déjà de donner l'avantage à l'équipe de France dans ce quart de finale. Le coup de sifflet, la course d'élan et le but. Et le but. Elle était partie du bon côté. Van Domselaar, j'ai cru qu'elle allait encore nous refaire l'histoire. Elle a touché le ballon du bout des gants. Eve Périsset, faut siffler madame, faut siffler madame. Oulema Tassar qui récupère le ballon, elle fait un sifflet, elle a sifflé, c'est fini, c'est terminé. Après 5 échecs consécutifs en quart de finale d'une compétition internationale, c'est la libération en ce 23 juillet 2022. Première qualification historique pour l'équipe de France dans un championnat d'Europe, dans le dernier carré d'un championnat d'Europe. Qualification 10 ans après la dernière demi-finale des Jeux Olympiques.
Alors j'assume pas le choix musical, hein, c'est celui de Geoffrey Charpie, notre producteur, mais c'est vrai qu'on a volé les oranges. Bon, on n'a rien volé parce qu'on a été bien supérieur à elle, même si la gardienne nous a fait douter. Tu le disais Jeannot, mais quel match de la gardienne néerlandaise, hein, c'était fantastique.
C'est extraordinaire, hein. On a vu l'équipe de France frapper 31 fois au but avec, bon, c'est vrai, un petit souci au niveau de du réalisme et du cadrage aussi, mais quand elle a une ou deux fois eu quelques difficultés, Van Domselaar, bah c'était Van der Graaf, sa défenseur, qui était sur la ligne pour donc coup de cuisse, éviter l'ouverture du score sur une frappe de Mallard, et sur une superbe volée de Cascarino, c'est le poteau qui est venu repousser la possibilité de voir l'équipe de France ouvrir le score fort justement dès la première période, parce qu'il faut reconnaître que l'équipe de France a vraiment haussé son niveau de jeu, a été au rendez-vous de ce qu'on pouvait attendre dans la qualité du jeu collectif.
Ah oui.
Après c'est vrai que elles sont tombées, comme dirait F. Périsset, sur un mur, quoi.
Et on signale d'ailleurs que dans le foot féminin, c'est souvent le poste qui est le plus critiqué, celui de gardienne de but. Mais
ah, complètement.
On vous invite, si vous avez loupé le match, à aller voir justement le résumé de cette rencontre, notamment cet arrêt dans le temps additionnel sur la tête de Wendy Renard, un arrêt sublime, une claquette pour écarter le ballon. Franchement, bravo à elle. Elle a longtemps repoussé l'échéance, mais l'équipe de France a réussi à faire la différence. Tu sentais du soulagement, Jeannot, hier, à l'issue de ce match pour les Françaises, justement, cette barrière qui était infranchissable des quarts de finale qui est enfin franchie. Ça fait du bien moralement, j'imagine, pour les Françaises.
Ouais,
pour
ouais. On leur a posé la question à la fin du match avec Anthony Reich. Soulagement ou fierté? Bah d'abord c'était fierté d'être qualifié pour les demi-finales, et après quand tu discutais un petit peu plus en profondeur avec elle, oui, il y avait du soulagement parce que on a senti un peu de crispation, un petit peu d'agacement même, j'ai envie de dire, en deuxième période, même si elles reviennent sur le terrain avec au fil des minutes un coaching différent de Corinne Diacre, on aura l'occasion d'en reparler, qui a peut-être à ce moment-là, on va dire, débloquer justement le manque de fluidité dans le jeu de l'équipe de France. Le soulagement de se dire finalement, ça y est, on a passé le cap des quarts de finale, même si elles sont pas nombreuses à ne pas avoir connu, à avoir connu ce genre de situation par le passé. Mais il y avait l'envie de démontrer que si on a fixé dès le départ l'objectif d'aller en finale le 31 juillet, c'était simplement qu'il fallait le démontrer concrètement. Sur le premier match à élimination directe, c'était passé ou rentré à la maison, et elles n'avaient pas du tout envie de cela. Elles ont été aussi présentes physiquement, et c'est au travers de ce soulagement de se dire on a bossé depuis le 9 juin dans la préparation, au-delà du stage qui avait été réalisé sur la côte basque avant de se retrouver à Clairefontaine, et de dire que collectivement l'équipe de France, et j'insiste sur collectivement, pas que l'équipe, pas que le 11, les remplaçantes, celles qui ont participé au match, collectivement, l'équipe de France a vraiment montré quelque chose de grand.
Mais tu as raison, on l'a senti, la tension monter au fur et à mesure des minutes, parce que la première période a été impressionnante de la part des Françaises. Il manquait seulement ce but. Collectivement,
elles doivent rentrer au vestiaire avec un avantage de minimum de 0, l'équipe de France.
Au moins,
tu as
raison. D'ailleurs, les chiffres du match, il y a 13 frappes cadrées pour les Françaises, une seule frappe cadrée pour les Néerlandaises. Donc, c'est dire la différence qu'il y avait hier soir entre les deux équipes. Et puis donc, la libération est venue d'un pénalty en prolongation, transformée non pas par Wendy Renard, qui est l'habituelle frappeuse, mais plutôt par Eve Périssé, qui a pris ses responsabilités, la future joueuse de Chelsea, qui nous parle justement de ce pénalty et du soulagement que cela a entraîné. Écoutez.
Wendy était numéro 1 et moi numéro 2. Il y avait des Lyonnaises en face, donc elle savait où elle tirait aussi. Donc elle m'a dit, est-ce que tu veux tirer? J'ai dit, oui, bien sûr. Après, j'ai pris ma responsabilité. Je me suis dit, voilà, faut pas que tu changes, faut pas que tu doutes. Même si il y a eu 2-3 petits trucs avec les Néerlandaises, mais voilà, j'étais focus et je suis contente d'avoir marqué ce penalty. Je crois que c'est l'un des plus importants. C'est là où j'ai eu le plus de pression aussi, je crois. C'est un des plus importants. Après, le plus important, c'est la victoire et qu'on se qualifie. Franchement, mon but, ça reste secondaire.
Ah, c'est toujours le problème, Jeannot, hein, quand tu as une gardienne en face, sur un pénalty, tu trembles un peu avant de frapper, quoi, c'est sûr.
Non, mais elle part du bon côté, en plus
elle la touche.
Elle la touche, quoi, du bout des gants, t'as l'impression qu'elle va encore te refaire la cerise, quoi. Et d'ailleurs, dans la discussion qui va très vite, parce que pour frapper le pénalty, on voit Wendy Renard qui discute. Il y a Cascarino et il y a Périssé qui sont toutes les deux à côté du ballon. Et puis, en tant que capitaine, elle vient, Wendy Renard, jusqu'au point de pénalty, jusqu'au ballon, non pas pour prendre le ballon, parce que ça c'était décidé, c'était Eve Périssé qui allait frapper, mais pour s'occuper de Spitze, qui était venu mettre un coup de pression à Eve Périssé. Spitze, il t'en faut une au minimum dans ton équipe, parce qu'elle a été agaçante toute la soirée.
C'était une sorte de Gennaro Gattuso féminin dans l'équipe des Pays-Bas, quoi, c'est ça.
Ouais, j'aurais même dit un petit, pour être plus près de nous, Thiago Motta, tu vois, PSG, un peu de cette époque-là, le mec emmerdant. Ben là, elle était chiante, quoi, il y a pas d'autre mot. Elle a été toute la partie, elle a mis des coups, elle a tiré le maillot, elle parlait à l'arbitre. Enfin, on avait le sentiment qu'elle allait se mettre vraiment l'arbitre dans la poche, et c'est ce qui s'est un peu passé d'ailleurs sur les trois quarts du match. Et là, elle était revenue mettre un petit coup de pression à Eve Périssé, et voilà, et la grande, comme on l'appelle, Wendy Renard, est venu juste lui faire comprendre que maintenant ça suffisait et qu'il fallait sortir du périmètre du penalty. Et elle a vraiment eu toute l'assurance qu'il fallait, Eve Périssé, même si on a senti dans sa frappe intérieur pied droit beaucoup d'application.
Exactement. Alors on le disait, il est 13h13, vous écoutez l'Intégral Sport, on revient sur cette belle victoire de l'équipe de France féminine en quart de finale de l'Euro hier face aux Pays-Bas, 1-0. On a eu une belle prestation collective, notamment en première période, et puis certaines individualités qui sont ressorties du lot tout de même. Jeannot, énorme match des deux ailières, hein, Kalidatou Diagne et puis Delphine Cascarino, les deux impressionnantes. Il manquait juste la finition, mais dans le jeu, elles ont énormément fait souffrir la défense des Bataves. Hein.
D'ailleurs, elle met une frappe un peu à l'image du but que Cascarino avait marqué contre l'Italie, hein, de venir sur ce côté gauche et de rentrer avec son pied droit. Et il y a eu un arrêt de Van Domselaar, encore une fois. Diagne s'est retrouvé en deux ou trois situations. Il y a eu cette permutation aussi dans le match de voir Diagne aux côtés de Malard dans un premier temps, puis Cascarino revenir sur le côté droit, et puis Diagne dans le rôle d'attaquante axiale. quand elle reçoit ce ballon en profondeur de Matteo qui venait de rentrer en cours de match, c'est là qu'elle va provoquer Jensen et qu'elle obtient le penalty. Il y a une vraie complémentarité dans le secteur offensif de l'équipe de France. Tu rajoutes à cela Malard avec l'absence de Katoto et donc Malard et Diani qui sont capables de jouer dans l'axe. Cascarino sur le côté, Baltimore qui aurait pu rentrer, et puis après il y a celle que tu as envie de dire, c'est la mascotte de l'équipe de France, quoi, Selma Bacha. C'est incroyable, dès qu'elle rentre, elle change la physionomie du match.
Exactement.
Cette gamine.
Ah bah ça te
c'est,
met... c'est... Ça
peut à la limite, Bacha, il faut pas chercher à savoir juste si elle doit jouer latéral gauche, voilà. Si elle doit jouer un cran au-dessus, comme exactement. C'est le cas souvent en équipe de France et surtout très souvent avec son club de l'Olympique Lyonnais. Mais c'est simplement à la limite, t'as envie de dire, mais pose-la sur le terrain et laisse-la faire, quoi.
Quand t'as les deux bolides Bacha devant Karchaoui, c'est vrai que ça déboule côté gauche et c'est une défense.
C'est un match énorme, Sakina Karchaoui.
Mais j'allais te le dire, Jeannot, il faut aussi féliciter parce qu'elle a souvent été critiquée. Mais les choix de Corinne Diacre, hein, parce que ce soit dans sa composition d'équipe, parce que la première période a été maîtrisée, et surtout dans ses changements, parce que l'idée de sortir effectivement son avant-centre pour replacer Diani dans l'axe, de faire rentrer Selma Bacha qui a été très performante, de tenter de faire sortir également Grace Gueyoro, la sélectionneuse, a été elle aussi inspirée sur ce quart de finale.
Ouais, je pense qu'elle est inspirée par rapport à la sortie de Malard, parce que Malard a beaucoup travaillé, beaucoup donné, a beaucoup peut-être aussi usé la défense, et elle savait que le point faible de la défense centrale des Pays-Bas, en tout cas elle s'en est rendu compte, et nous aussi on a eu la confirmation, c'est que c'était Jensen. Van der Graaf, elle a été partout dans tous les bons coups, elle était dans la couverture, elle a même fini avant-centre pour essayer justement de revenir à un partout et d'obtenir la séance de tir au but. Et à partir de là, Malard ayant beaucoup donné et ayant très peu d'espace, et elle en a un peu besoin, elle s'est appuyée sur la puissance de Diani, sur sa technique, sur sa couverture de balle, cette façon de pouvoir physiquement faire la différence en provoquant, et avec derrière toute l'intelligence qu'on lui connaît à l'attaquante du Paris Saint-Germain. Ouais. Elle a failli faire mouche, elle obtient le penalty. Donc là, déjà, point positif par rapport à ça. Gueyoro, je pense qu'elle en avait plus du tout sous le capot. Elle avait beaucoup travaillé. Sa grande spécialité à la capitaine du PSG, c'est le box-to-box. Et là, vraiment, elle est venue chercher les ballons très haut dans les pieds de Bilbao. Elle est allée ramener ce ballon au plus près de la surface de réparation.
Elle a failli marquer de la tête, d'ailleurs.
En plus,
incroyable.
Ouais. Et de faire rentrer Matteo, c'est tout simplement de démontrer que Clara Matteo est en train de prendre une dimension internationale. Parce qu'elle a le sens du but parce qu'elle est attaquante, parce qu'elle fait une saison attaquante avec le Paris Football Club, mais avec l'équipe de France, elle est un peu plus reculée. Et quand elle la fait rentrer, elle décide de mettre Toletti et Bilbao sur la même ligne, donc d'avoir une pointe haute au milieu de terrain. Et ça aussi, ça fait la différence. Qualité de passe, Matteo pour Diani et le pénalty derrière.
13h17 sur RMC, l'Intégral Sport. Vous pouvez nous appeler au 32-16 hein, si vous voulez débriefer avec nous cette magnifique victoire de l'équipe de France féminine. Jeannot, projetons-nous également sur la demi-finale. Ça y est, on est dans le dernier carré. Et on va retrouver un adversaire qu'on connaît bien, l'Allemagne. Ce sera mercredi.
T'imagines 40 ans après Séville, Milton Keynes. Non, je plaisantais avec des confrères hier soir. Tout le monde parle de Séville. Tout le monde parle de Séville, et c'est à juste titre, avec le beau sujet chez nos confrères de l'équipe magazine. Là. Mais c'est simplement de dire, on va retrouver encore un France-Allemagne en demi-finale. Il y avait eu l'Euro en 2016. Pour les garçons, on va retrouver un France-Allemagne. Là, c'est vrai que quand tu te penches sur les statistiques et les dernières confrontations, t'as mal à la tête.
Alors justement, on va écouter Corinne Diacre, l'entraîneur de l'équipe de France, qui parle justement de la suite de la compétition et de ce match à venir face aux Allemandes.
Ce groupe est allé chercher quelque chose d'important. Ce groupe a beaucoup donné, beaucoup essayé. Et ce que j'ai aimé, c'est que ce groupe n'a rien lâché. Non, moi je persiste à dire que l'histoire, nous, on a envie de la construire. Les joueuses, le staff, on veut écrire notre histoire, tout simplement. Maintenant, il nous reste encore un peu de chemin à parcourir.
Jeannot, se considérait outsider face aux Pays-Bas parce que les Néerlandaises étaient tenantes du titre. Est-ce qu'une nouvelle fois en demi-finale, on va se considérer comme outsider?
Oui, je te rassure. Non, mais là, je veux bien trouver quelqu'un qui puisse me définir par A plus B que l'Allemagne est inférieure à l'équipe de France. Non, c'est regarde déjà leur parcours. 11 participations à l'Euro. c'est 8 victoires. La dernière, c'était en 2013. Tu te penches juste un peu sur le berceau des Allemandes sur cet Euro en Angleterre. 4-0 contre le Danemark, 2-0 contre l'Espagne, 3-0 contre la Finlande, 2-0 contre l'Autriche en quart de finale.
Ouais, bah ça va.
C'est zéro but encaissé, hein, oui. D'accord. C'est la seule nation qui est dans ce cas de figure.
Tu veux nous faire peur.
Elle est favorite au même titre que les Anglais. Non, je veux simplement qu'on reste les pieds sur terre, quoi. Ouais. Parce que dans une compétition internationale, oui, Corinne Diacre, je l'entends, et elle a raison, qu'elle veut écrire son histoire et qu'elles veulent écrire leur histoire, les joueuses de l'équipe de France. 20 matchs entre la France et l'Allemagne, 11 victoires des Allemandes, 4 matchs nuls, 5 victoires de la France seulement.
Mais coupez-lui son micro, c'est pas possible.
Mais je suis obligé de le rappeler.
C'est vrai.
Et surtout en compétition officielle, Euro et Coupe du Monde. Aucune victoire de la France.
C'est Jeannot, d'autant que les Allemands ont la chance d'avoir 2 jours de récup en plus par rapport à l'équipe de France. Bon, après, oui, nous, c'est... on avait plié les.
Mais là, on a mis Coach Courbis en vacances, donc du coup, on ne fera pas un débat là-dessus. Quoi.
Ça, c'est vrai. Ouais, c'est pas le moment. On ne va pas le réveiller, Coach Courbis.
On le salue, coach.
Revenir tranquillement pour le mois d'août. Tiens, on parle de tout cela avec Olivier qui nous appelle au 32-16, fan de l'équipe de France féminine. Salut, Olivier.
Ouais, bonjour à tous. Salut, Jeannot.
Bonjour, Olivier.
Olivier, alors,
je peux dire quelque chose à Jeannot là sur ce qu'il vient de dire sur les confrontations et sur les statistiques.
Vas-y, Olivier.
Jeannot, je veux dire quelque chose. Alors, tu viens de parler de Séville, Séville 82. Moi, à l'époque, j'avais 14 ans. J'étais en colonie de vacances. J'ai mis un peu le holà là-dedans pour qu'on ait une télé, pour qu'on regarde le match. Vraiment une déchirure. Vraiment, ce match, c'est vraiment un souvenir qui restera vraiment présent comme un grand match, mais vraiment une tristesse et tout ça. Et j'ai envie de te dire, je pense que l'équipe de France féminine, c'est vrai que on a été. Moi, je comparais l'équipe de France féminine un peu jusqu'à hier, un peu au PSG, au côté maudit, à jamais pouvoir passer ce stade des quarts de finale et tout. Et il y a un moment, il faut que la roue tourne. Donc là, je t'entendais par rapport à l'Allemagne. Alors, par rapport au match que j'ai vu hier de l'équipe de France féminine, je voudrais dire plusieurs choses. La première, c'est que ce que j'ai trouvé admirable dans ce match, c'est que quand on est amateur de football, spécialiste ou pas, qu'on voit le match, on se dit mais c'est pas possible en fait. Qu'est-ce qui fait que ça rentre pas ? Il y a un pied, il y a un poteau, il y a toujours un truc jusqu'à la tête de Renard à la 93e minute. On se dit, on la voit, on la regarde, on voit son visage. J'aimerais bien savoir ce qu'elle se dit à ce moment-là. Elle dit mais c'est pas possible, je suis maudite.
Et la virgule de Jensen en première période qui va dans la lunette,
voilà.
Et la gardienne qui
évite le but. Et tu vois, Jeannot, ce que je veux te dire par rapport à ce que tu viens de dire sur l'Allemagne. Ce match hier, on avait tout contre nous, mais vraiment, on a tout eu contre nous jusqu'à la blessure de Katoto avant, même si les Hollandaises ont eu aussi leur part de blessés là-dedans. Mmh. Voilà. Malgré tout, les joueuses, la fatigue, le stress, à mon avis, qui commençait à les gagner, même les joueuses qui étaient toutes jeunes, qui n'avaient jamais vécu tous les échecs auparavant, elles n'ont rien lâché. Mais moi, j'ai vu des joueuses, Cascarino, Karchaoui, Selma quand elle est rentrée, Matteo, Renard, j'ai vu des joueuses qui étaient à bout, même Périssé, qui était à bout, elle va tirer le pénalty alors qu'on sent qu'elle est épuisée, et elles ont rien lâché. Et j'ai envie de te dire, moi je pense un peu comme l'équipe de France en 2018, où avant le match contre l'Argentine, on disait c'est le match qui, à mon avis, peut être le début de l'aventure, même si on n'était pas dans le même cas de figure, parce qu'on a déjà été champion du monde. Moi, je pense que c'est le déclic. Et en fait, on a tout contre nous, tu viens de le dire. Les statistiques sont contre nous. On a 2 jours de repos en moins par rapport à l'Allemagne. On est archi outsider. Elles sont ultra favorites. J'ai envie de vous dire, entre guillemets, même si c'est vrai quand on est compétiteur et les filles le sont avec l'entraîneuse, qu'est-ce qu'on a à perdre, mis à part se lâcher et te dire, de toute façon, si on est éliminé, on est éliminé par plus fort que nous qui avons un gros palmarès. Mais honnêtement, moi, je te le dis franchement, je suis très, très optimiste.
Et voilà,
sincèrement,
Olivier,
je suis optimiste.
Bravo. Il n'y a que Jeannot qui vient. Non, mais j'allais y venir.
Je plante le décor. Tu m'as demandé de planter le décor. Donc, je plante le décor. Après, je vais juste prendre comme exemple le match à élimination directe des Allemandes, le quart de finale contre l'Autriche, qui leur met la misère pendant la première période, qui touche 3 fois les poteaux. Après, c'est vrai que les Allemandes, en deuxième période, elles ont retrouvé le rythme sans s'affoler et elles mettent la pression, elles arrivent à trouver le chemin défilé avec en plus Alexandra Popp, la capitaine qui est de retour de nulle part. Elle a été longtemps blessée, elle n'avait jamais jusqu'alors participé à un championnat d'Europe, elle n'aurait pas dû participer au championnat d'Europe, blessée à un genou s'il avait eu lieu l'an dernier comme ça aurait dû être le cas en 2021. Et là, à 31 ans, championne d'Allemagne, elle est à son apogée, elle est à un but par match depuis le début de la compétition. Mais il y a le point faible, et ça peut être être intéressant, comme on parlait Olivier à l'instant, c'est les coups de pied arrêtés, les coups de tête de Wendy Renard qui n'a pas trouvé le cadre. C'est le point faible défensivement sur les coups de pied arrêtés. Et après, dans l'axe, et on l'a vu avec les Autrichiennes, et peut-être que la rapidité justement de Cascarino et de Diani avec Malard, tout ceci peut faire la différence. Elles ont réalisé une grosse performance contre les Pays-Bas. Il faut qu'elles réalisent un exploit contre les Allemandes, et elles sont capables de le faire.
Moi, je rêve d'un France-Allemagne à la Euro 2016 avec cette victoire en demi-finale 2-0.
J'allais y venir aussi. Rappelle-toi, on sort les Allemands, ouais. mais on s'est fait bouger pendant 60 minutes.
Mais on s'en fiche, on est qualifié. Exactement.
Donc, il y a des références qui font que même si t'es pas favori, même si t'es pas sûr de ton football, eh bien, tu peux réussir à faire l'exploit. Voilà. C'est ce qui s'était passé en 2016 à Marseille en demi-finale.
Voilà. Jeannot pessimiste, prochaine fois, j'appelle Anthony Reich pour regarder justement de l'espoir en vue de.
Mais je suis pas pessimiste, au contraire. C'est là où tu me chambres, mais je suis pas pessimiste. Je suis optimiste, sauf que je suis obligé de rappeler certaines choses, quoi. Voilà. Bon. Et ça sera pas simple, mais si j'ai pas dit que ça serait irréalisable. Moi, je rêve depuis le début de la compétition d'un crunch féminin à Wembley avec un France-Angleterre, tu vois. Et à peu près la même chose que l'an dernier, tu vois, où tu as les Anglais qui chantent, les Italiens qui les éteignent. Bah là, pourquoi pas les Français?
Et pourquoi pas? On remercie Olivier qui est venu avec nous au 32-16. Continue de suivre la compète, évidemment, Olivier, notamment sur RMC. On précise juste, d'ailleurs, Jeannot, le carton d'audience pour le match d'hier à la télévision. Plus de 5 millions de téléspectateurs. Donc,
ouais, mais je pense que ça peut faire mieux.
Ça va faire mieux. Demi-finale, puis imagine.
Mais bon, ils écoutent tellement la radio, si tu veux, qu'ils en perdent de temps en temps le fil de la télé, quoi.
Ils savent où est la qualité.
C'est ça.
Ça c'est sûr.
Ouais,
et ça, tu prêches à convaincu.
Merci, tu sais où elles jouent les filles à Milton Keynes la demi-finale.
Oui Olivier, tu veux rajouter quelque chose? Il est là Olivier.
Ouais, j'aurais juste une petite chose à vous dire puisque je passe à l'antenne et que ma fille, je suis un ancien entraîneur de football. J'avais promis que si on allait en demi-finale, je ferais un cadeau à ma fille et je l'emmènerais voir les Françaises en Angleterre. Donc par votre antenne ou par vous, si vous pouvez me donner un tuyau pour que je puisse prendre des places pour emmener ma fille, je serais ravi de l'ailler. Et je voulais
tout
vous
de
dire
suite
également,
FFF.fr sur le site internet de la fédération là, tout de suite là.
D'accord.
Ce matin.
Et je veux juste vous dire parce que on n'en parle pas beaucoup, mais on est quand même devenu dans la nuit de vendredi à samedi championne du monde féminine militaire pour la deuxième fois.
Et oui, c'est vrai.
On en a parlé hier matin.
Ah d'accord, excuse-moi Jeannot, je l'ai pas entendu, je voulais féliciter les filles.
Bien sûr. Avec deux joueurs.
Mais attends, je suis obligé d'en parler, moi j'ai deux Montalbanaises qui sont dans l'équipe.
Moi aussi, il y a deux Jordanaises, donc merci.
Peut-être à mercredi Jeannot si j'arrive.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup.
Merci Olivier, et si tu rappelles, je donnerai le numéro de téléphone d'Anthony Reich. Voilà, c'est lui qui gère les demandes, donc il n'y a pas de problème. On donnera son numéro, il va pouvoir obtenir des places. Merci Jeannot, bon repos à toi.
Et je te disais, c'est Milton Keynes la demi-finale, juste pour finir.
Et oui, Milton Keynes.
Et
oui.
Et alors, qui jouait à Milton Keynes il y a deux ans? Rhys Ealy, meilleur buteur de la Ligue 2 l'an passé. Il joue en Détroit là-bas. C'est là-bas qu'ils sont allés le chercher.
Tu as raison.
Et quand je lui ai allé parler en fin de saison, il m'a dit oula, tu vas à Milton Keynes. Je ne sais pas ce que ça donne, j'ai jamais mis les pieds. On verra bien.
On ne sait pas s'il sera Toulousain cette saison, parce qu'il y a un doute.
Il a été blessé. Ouais. Il n'a pas fait la préparation correctement. Écoute, on verra bien.
On aura le temps de reparler du FC, Jeannot.
Oui, après les vacances.
Allez, je te fais une bise, je te dis à bientôt. Mercredi soir, 21h, c'est la demi-finale de l'Euro féminin, RMC Radio officielle de l'Euro féminin, match à suivre avec Jeannot, avec Anthony et avec toute la Dream Team à partir de 21h. 13h27 sur RMC, dans un instant, le Tour de France femmes, évidemment, c'est un événement, ça revient, une première depuis 1989, le départ fictif va être donné en bas de la Tour Eiffel, on va rejoindre Pierre Thévenet qui est sur place, à tout de suite.
RMC Intégral Sport. Benoît Boutron.
13h31 sur RMC, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, on vous accompagne tout au long de l'après-midi. Je vous rappelle les deux événements, évidemment à 15h le Grand Prix de France qu'on va vous présenter dans une heure tout pile avec Jean-Luc Roy et Denis Chevrier, et puis bien sûr la dernière étape du Tour de France, départ de la Paris La Défense Arena juste après 17h pour une arrivée en début de soirée sur les Champs-Élysées. Vous retrouverez ensuite toute l'équipe de l'After Tour. Nous dans 10 minutes on va parler de voler, évidemment la Ligue des Nations et le magnifique exploit des Français. Bon, même s'ils sont champions olympiques en titre, ils ont battu l'Italie à Bologne devant 11 000 spectateurs, 3-7-0. Ils affronteront les États-Unis en finale ce soir. On en parlera avec Nicolas Bayou. Et puis à 14h, on va retourner à Eugene, aux États-Unis, pour les championnats du monde d'athlétisme qui s'achèvent la nuit prochaine. Et cette chance de médaille pour Kevin Mayer. Mais on parle tout de suite d'un événement qui démarre aujourd'hui. Une semaine de compétition, plus de 1000 km répartis en 8 étapes, 144 participantes. C'est le grand retour du Tour de France femmes cette année. C'est une première depuis 1989. Le départ fictif vient d'être donné au pied de la Tour Eiffel, où on retrouve Pierre Thévenet, journaliste à RMC Sport. Salut Pierre.
Salut Benoît, salut à tous.
Bon, on rappelle que c'est un trait d'union symbolique entre le départ du Tour de France femmes et donc l'arrivée du Tour de France masculin. C'est quand même une magnifique journée dans les rues de Paris.
Exactement, les 144 coureuses, elles viennent de s'élancer place de Varsovie, au pied de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel est juste de l'autre côté de la Seine. Pour le départ fictif, c'est 5 km plus loin. Aujourd'hui, il y a une petite étape d'un peu plus de 80 km et elles vont arriver sur les Champs-Élysées comme les hommes, quelques heures du coup avant l'arrivée des hommes.
Exactement, on a un petit souci de micro avec toi, on va régler ça dans une seconde, tu le disais. Donc départ pour les filles, 144 coureuses, et c'est la suite logique finalement pour un cyclisme féminin en pleine expansion, Pierre. On a eu le retour des grandes classiques, notamment le Paris-Roubaix, le Giro se dispute depuis quelques années, le Tour d'Italie, et c'est donc le Tour de France qui revient après 30 ans d'absence, événement tout de même pour toutes les filles qui pratiquent le cyclisme de manière professionnelle.
Ah, évidemment, toutes les coureuses étaient vraiment ravies d'avoir enfin une course par étape pour le Tour de France. Comme tu disais, elles avaient toutes les classiques et le cyclisme féminin s'est considérablement développé ces dernières années. Il s'est professionnalisé, donc ça tombait sous le fait que les femmes aient enfin leur vrai Tour de France. Ces dernières années, elles devaient se contenter de la course by le Tour de France, une course d'un jour. Et donc voilà, cette année, elles ont droit au vrai tour et le public, en tout cas, est au rendez-vous.
Ouais, on arrive dans un instant, évidemment, Pierre Thévenet, parce qu'on a un petit souci de connexion. Les images sont magnifiques, évidemment, avec ces 144 coureuses, ça va être fantastique. On parlera des favorites dans un instant. On va parler du parcours également, qui lui aussi sera très beau, puisqu'il y aura une arrivée finale sur la super planche des belles filles qui a été justement gravie par le peloton masculin du Tour de France. On se retrouve du coup, Pierre, justement, parlons des chiffres clés autour de cet événement. On va entendre d'abord Franck Perc, justement, qui est le directeur de ce Tour de France Femmes. L'excitation arrive forcément et il nous parle de l'événement qui attend les filles. Écoutez.
C'est la continuité, on va dire, de ce qui se passe en ce moment. On assiste à un développement extraordinaire du cyclisme féminin. On espère que les téléspectateurs, les spectateurs continueront à suivre le Tour de France. Cette fois, il sera au féminin jusqu'à dimanche et l'arrivée à la super planche des belles filles. Depuis le début de la saison, elles nous ont montré des exploits sportifs et un super comportement en course. On sait qu'elles vont se battre et on sent l'excitation, effectivement, qui arrive.
Alors, il y a de l'excitation, forcément. Précisons, Pierre, c'est important qu'il y a une belle notoriété autour de cet événement. Ça sera diffusé dans 190 pays. C'est un événement mondial.
Oui, exactement. C'est diffusé dans 190 pays. Et le public, vraiment, est au rendez-vous. Ils ont l'air vraiment prêts pour ce Tour de France. Il y a plein de fans qui ont suivi le Tour de France hommes et qui m'ont dit qu'ils allaient enchaîner sur le Tour de France femmes, au moins pour quelques étapes. Certains m'ont même assuré qu'ils préféraient le cyclisme féminin, qui est plus débridé, où il y a moins de calcul. Et une des coureuses, Sandra Levenez de la Cofidis, me disait qu'elle espérait combler en fait la petite dépression post-tour masculin, où les spectateurs n'ont plus rien à regarder.
C'est vrai,
cette fois, voilà, ils auront le Tour de France féminin.
Et ouais, on veut trouver un événement pour faire la sieste en début d'après-midi. Ben voilà. Après le Tour de France masculin, il y aura le Tour de France féminin. On se réveille juste pour l'arrivée d'étape, évidemment. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres justement pour situer ce Tour de France femmes, on le disait, une semaine de compétition.
Oui, bien sûr, un premier chiffre, 1033 km, c'est ce que vont parcourir les 144 coureuses pendant 8 jours. 8 jours de course du coup, entre Paris et les Vosges, une arrivée à la super planche des belles filles. On va parler du nombre de coureuses, 144 réparties en 24 équipes. Et dans ces 144 coureuses, on a 24 françaises. Et pour ce qui est des maillots, elles auront les quatre maillots distinctifs, exactement comme les hommes. Le maillot jaune pour la meilleure au classement général, le maillot blanc pour la meilleure jeune, le maillot à plat, la meilleure grimpeuse, et le maillot vert pour la meilleure sprinteuse.
Exactement. Parlons du parcours aussi. Tu le disais, arriver à la super planche des belles filles, ça va être très dur, puisqu'on rappelle que la portion finale est à plus de 24% de déclivité. Par où vont passer justement ces filles du peloton cette semaine ?
Tout d'abord, une première étape un peu tranquille de 80 km. Le peloton va parcourir à 12 reprises une boucle de 6,8 km entre la Tour Eiffel et les Champs-Élysées. Je dis tranquille, mais ça risque d'aller très vite. On va arriver en sprint massif. Ensuite, une autre étape plate entre Meaux et Provins. Puis ça va se compliquer. Une étape entre Reims et Épernay avec le même final qu'en 2019. Rappelez-vous, chez les hommes, c'est Julien Alaphilippe qui s'était imposé sur ce final. Passage ensuite à Troyes, à Bar-le-Duc, à Rosheim, avant le week-end décisif en montagne, dans les Vosges. Tout pourrait se décider avec une dernière étape terrible qui arrive sur la planche des belles-filles. On avait vu Pogacar s'imposer chez les hommes cette année.
Tu as raison, c'était magnifique ce duel entre Pogacar et Vingegaard. Et c'est Pogacar à l'époque qui l'avait emporté. 13h37 sur RMC, l'Intégral Sport. On vous présente le Tour de France Femmes qui vient de s'élancer dans les rues de la capitale. On le disait donc avec 80 km à parcourir. Parlons de l'aspect sportif du coup, Pierre Thévenet. Avec 24 équipes engagées, le seul souci qui va se passer, c'est qu'il y a plusieurs divisions d'écart entre les World Team et les formations continentales. Hein. C'est pas du tout le même niveau dans le peloton. Hein. C'est très hétérogène.
Bien sûr. Bien sûr, les équipes n'auront pas du tout toutes les mêmes ambitions. Il y a 24 équipes en tout, tu l'as dit. 14 World Tour avec les grosses écuries SD Works, Movistar, Jumbo Visma. Et la seule équipe française de ces World Tour, c'est la FDJ Suez Futuroscope. Et puis, il y a 10 équipes de la seconde division, l'UCI Continental, les 3 meilleurs qualifiés et 7 qui ont été invités avec toutes les autres équipes françaises, notamment Cofidis, Arkea, Saint-Michel ou encore le Stade Rochelet, où là, bien sûr, le niveau n'est pas le même et les ambitions ne seront pas les mêmes pour la course.
Bon, alors parle-nous des grandes favorites pour aller chercher ce maillot jaune mythique. Est-ce qu'il y a une Française qui peut tirer son épingle du jeu ou est-ce que c'est forcément des favorites néerlandaises? Parce que c'est la nation la plus représentée. Hein.
Bien sûr. Alors la plus belle chance française, c'est Juliette Labousse. Elle est la leader de l'équipe DSM, mais elle vise le top 5. Hein. Elle ne vise pas non plus le titre. La grandissime favorite, c'est Annemiek van Vleuten, hollandaise, c'est la 10 de l'équipe Movistar. Elle vient tout juste de remporter le Giro, c'est ça qui en fait la grande favorite. À part elle, on peut noter la championne du Danemark, Cécilie Uttrup Ludvig. On sait que les Danois sont très en forme sur le vélo en ce moment. Ouais. On peut noter aussi Marianne Vos, qui a le plus grand palmarès de l'histoire du cyclisme féminin. Et Elisa Balsamo, qui elle va vouloir rafler toutes les étapes du sprint. C'est la championne du monde actuellement.
Tu les as croisées un petit peu, ces coureuses, justement, hier, sur la journée réservée à la presse. Comment elles considèrent cet événement? C'est l'événement le plus marquant de leur année? C'est vraiment le moment où elles ont envie d'être performantes?
Alors pour les Françaises, en tout cas, ça c'est certain, c'est l'événement dont elles ont rêvé pour beaucoup depuis tout petit, de faire ce vrai Tour de France, de partir quand les hommes arrivent. C'est un vrai symbole pour elles et elles savent que c'est important aussi pour se montrer au grand public. Et en tout cas, oui, c'est la course que toutes ces coureuses ont cochée sur leur calendrier en priorité cette année.
Et justement, tiens, on va pouvoir écouter la championne de France en titre. Hein, et 6 fois championne de France du contre-la-montre, c'est Audrey Cordon-Rago. Elle nous parle de ce plaisir de pouvoir enfin disputer un Tour de France femme. Écoutez.
On en a tellement parlé, on l'a tellement voulu ce tour que maintenant qu'on y est, on n'a pas du tout envie de faire demi-tour. C'était la course la plus attendue de l'année pour tout le peloton et ça y est, on va enfin prendre le départ. Je vais le vivre pleinement à 300% avec énormément d'envie. J'ai vraiment envie de profiter. C'est surtout le mot qui revient dans ma tête, c'est profite, profite, parce que c'est peut-être la seule et unique fois que tu pourras le faire.
Et nous aussi sur RMC, on va en profiter. Événement à suivre tout au long de la semaine, évidemment, avec un moment important. Pierre Thévenet, le départ réel va être donné par la directrice de course, Marion Rousse. Hein.
Oui, c'est ça. Ça va partir d'un instant à l'autre. Et comme je l'ai dit, les filles vont effectuer 12 fois ce tour entre la tour et les champs pour une arrivée prévue autour de 15h30 sur les Champs-Élysées.
Bon, parfait. Merci Pierre Thévenet. Tu vas nous faire vivre tout cet événement pendant 8 jours sur RMC. On te souhaite bon courage et on te retrouve tout à l'heure hein, pour des points justement sur cette première étape. Et pour l'arrivée, a priori, on se dirige vers un sprint massif pour cette arrivée sur les Champs-Élysées quelques heures avant le final du Tour de France masculin. 13h40 sur RMC. Dans un instant, direction l'Italie pour parler volley, la présentation de France-États-Unis. Ce sera la finale de la Ligue des Nations à suivre ce soir à 21h sur RMC. Je vous rappelle qu'hier, les Bleus ont fait une démonstration de force face à l'Italie. Une victoire 3-7-0 devant un public médusé. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport. Benoît Boutron.
13h43 sur RMC l'Intégral Sport tout au long de l'après-midi et ce jusqu'à 17h avec ce grand moment dès 15h. Le Grand Prix de France, la 12e manche du championnat du monde avec Charles Leclerc qui partira en pôle devant les deux pilotes Red Bull, évidemment Max Verstappen et Sergio Perez, Lewis Hamilton 4e. Un grand moment de sport qui vous attend avec Jean-Luc Roy et Denis Chevrier. D'ailleurs, on fera une présentation du Grand Prix à partir de 14h30. Nous, dans un quart d'heure, on va parler d'athlétisme avec la suite et la fin des championnats du monde à Eugene aux États-Unis. Un entretien réalisé avec Kevin Mayer, principale chance de médaille française. Les Bleus qui sont toujours Fanny, pour l'instant 0 médaille pour le clan tricolore. On rappelle qu'il est 6e du concours du décathlon alors qu'il reste 5 épreuves à disputer. 13h44, ils ont climatisé la salle remplie de tifosi hier soir. Les volleyeurs français, champions olympiques au titre, ont frappé fort à Bologne. C'était la demi-finale de la Ligue des Nations. Une victoire 3-7-0 donc face aux pays hôtes. L'Italie, une magnifique démonstration de force avant d'affronter la surprenante équipe des États-Unis en finale ce soir. On en parle avec Nicolas Bayou, évidemment, qui est notre spécialiste volley sur RMC. Salut Nico.
Salut Benoît, salut à tous.
Alors Nico, on savait qu'on était fort, mais s'attendre à une telle performance, c'était tout de même pas prévu. Hein. Une telle classe d'écart entre les deux équipes, bravo.
Ouais, ils ont été éblouissants, les Bleus. Ils ont donné une véritable leçon à l'Italie, battre 3-0 cette équipe italienne, un championne d'Europe en titre, et puis première équipe de la phase préliminaire dans cette VNL, bah, sur ce score de 3-0 dans une salle hostile. Hein, il y avait quasiment 8000 tifosi. C'est une grande performance. Et on a vu une maîtrise de tous les instants, aussi bien sur le plan émotionnel que techniquement. Ils ont été vraiment fabuleux et injouables. Et on l'a vu à la fin du match, les Italiens étaient totalement perdus face au jeu français.
On peut aussi féliciter la stratégie mise en place par Andrea Gianni, hein, légende du volley italien qui entraîne désormais l'équipe de France, qui a voulu justement que les Bleus soient directement agressifs pour un petit peu climatiser cette salle, quoi, pour prendre l'ascendant et faire la différence rapidement. Hein.
Ouais, la stratégie, elle était claire, hein, mettre une très très grosse pression sur la réception italienne dès les premiers points pour, tu l'as dit, un peu climatiser cette ambiance. Alors ils ont apporté une énorme agressivité au service, ça a perturbé totalement le jeu italien qui n'a pas été très efficace en attaque hier. Et quand on a du mal en réception, ben on joue logiquement moins bien en volée. Et au total, on a eu 11 aces français à 2 simplement pour l'Italie, c'est une démonstration dans ce domaine. Et en plus, à cela, tu rajoutes la qualité défensive des Bleus, le peu de fautes sur contre-attaque. Eh bien, contre eux, contre les Bleus, c'est difficile de mettre le ballon à terre. Ils défendent tout quasiment et finalement ils fatiguent leur adversaire. C'est pour ça que on a vu les Italiens craquer au bout d'un moment, quoi.
Et une fois encore, les cadres ont été déterminants. Je pense à ton ami Jean-Patry, je pense à Erwin Engapet qui était de retour après une légère blessure à la cheville. Les deux ont été énormes hier soir. Hein.
Ouais, Jean-Patry a fait du Jean-Patry, hein, très efficace en attaque, mais c'est surtout Erwin Engapet qui a donné le tempo. J'ai trouvé hier, je l'ai trouvé très juste, très très fin, appliqué, hein, particulièrement motivé contre l'Italie qui est en quelque sorte son deuxième pays, Benoît, parce que oui, c'est là où il joue depuis des années, c'est là où c'est une véritable star à Modène. Et puis il y avait tellement de solutions hier en attaque pour le passeur, hein, sur les bouts de filet, sur l'aile gauche, sur l'aile droite, avec Jean-Patry, on l'a dit, avec Erwin, mais aussi avec Trevor Klevdo qui avait été brillant à Tokyo aux Jeux Olympiques. Il a été très fort encore hier. On a eu des points fantastiques, ils nous ont régalés avec toujours cette folie, cette capacité à faire le spectacle de la part de cette équipe de France. Il y avait la manière hier soir, au-delà du superbe résultat contre l'Italie.
Nico, il y a toujours énormément de compétitions en volée. Le Graal sont les Jeux Olympiques, il y a également des Mondiaux, il y a des Championnats d'Europe. Où est-ce que tu places la Ligue des Nations? L'importance de cette compétition, c'est en dessous des trois autres ou c'est à la même valeur qu'un Euro, par exemple? Qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, c'est en dessous des Jeux, en dessous d'un championnat du monde. Pour moi, c'est sur le format, c'est un mini championnat du monde avec quand même les 16 meilleures équipes, hein, sur un mois. Ça a lieu tous les étés. C'est pour ça qu'il y a peut-être un petit peu moins de prestige. Il y a quand même une grande qualité de jeu. On l'a vu sur les deux demi-finales et même sur les quarts de finale il y a deux jours. Il y a surtout beaucoup d'argent à prendre, hein. Le prize money de 1 million de dollars pour le vainqueur, 500 000 pour le finaliste. Ça va remplir les caisses de la fédération et les comptes en banque des joueurs. Ils le méritent parce que c'est un sport où on gagne pas des millions d'euros. Et puis, c'est vrai que par rapport à un championnat du monde, si je te dis que la France a gagné la VNL ou la France est championne du monde, bah c'est pas tout à fait la même chose. Même si sur un plan strictement sportif, on a quand même les meilleurs joueurs qui sont présents dans leurs équipes nationales. Donc, on a vraiment le gratin du volley mondial.
Voilà, il n'y a pas l'excuse de dire, par exemple, l'Italie a envoyé l'équipe B ou quoi que ce soit. Non, les meilleures équipes sont alignées.
Alors,
ouais, vas-y,
champion. Non, plus à ce stade. Plus à ce stade, parce que ça, c'était peut-être un peu vrai sur les trois week-ends où on fait 12 matchs au total, trois fois quatre matchs, au mois de juin et au mois de juillet. Là, les coachs en profitent pour faire des ajustements, faire des essais, pour mettre aussi les cadres au repos, parce qu'on sait qu'il y a un double objectif cet été. Il y a le championnat du monde à la fin du mois d'août. Mais sur la phase finale, on remet les cadres. Et donc, c'est là où on voit vraiment le gratin du volley.
13h49 sur RMC, c'est l'Intégral Sport. On vous parle de cette équipe de France de volley qui est toujours aussi impressionnante. Elle s'est qualifiée pour la finale de Ligue des Nations de volley, donc ce soir en Italie face aux États-Unis. Je rappelle juste le palmarès des Bleus. Évidemment, cette médaille d'or olympique l'an dernier, on a tous vibré sur RMC au JO de Tokyo. Il y a également eu un Euro en 2015 et deux Ligues mondiales, donc en 2015 et en 2017. Une équipe très talentueuse, très expérimentée. Est-ce que tu dirais qu'on est plus fort que jamais là, avec toute cette génération qui arrive un peu à son apogée? Ça y est, Jean-Patry a une envergure internationale. Est-ce qu'on a déjà été aussi fort, Nico, à ton avis?
Écoute, c'est vrai que quand tu parlais du palmarès, ça commence à être un très joli palmarès pour cette génération. Ils ont tout gagné sauf le mondial hein, qui aura lieu fin août. Ils iront chercher d'ailleurs l'or. Ils sont réguliers depuis 2015. Ils ont été champions d'Europe en 2015. Ils ont gagné cette Ligue des Nations, champion olympique bien sûr. Est-ce que cette équipe est la plus forte peut-être? J'ai l'impression qu'ils ont encore progressé par rapport à il y a un an, par rapport aux Jeux Olympiques, notamment dans deux secteurs, le service et le contre, parce que on connaissait l'ADN de cette équipe de France, c'est la meilleure défense, la meilleure réception, et ils deviennent injouables avec cette efficacité offensive, cette qualité de service au contre. On l'a vu hier, ils ont martyrisé les Italiens avec ces 11 aces. Au niveau de la réception italienne, c'était parfois catastrophique. Et puis, il y a toujours... Moi, ce qui m'étonne toujours avec ces joueurs, c'est cette fraîcheur, cet état d'esprit, cette malice.
Ça, c'est vrai.
Dans le jeu, on les voit faire beaucoup de facéties sur les présentations d'avant-match. Ils trouvent toujours le moyen de s'amuser. C'est une vraie famille, cette équipe. Et en plus, ils le prouvent. Bah, ce sont des garçons formidables, des bons mecs. Juste après le match, il y a eu ce geste fort. Je ne sais pas si vous avez vu, les auditeurs et toi, Ben, cet hommage à notre collègue et ami Xavier Richefort, qui est décédé malheureusement.
Journaliste à l'équipe.
Vendredi, qui devait commenter cette finale. Exactement, cette finale aujourd'hui. Ils ont mis un t-shirt avec le prénom Xavier dessus. Ce sont, au-delà d'être des grands champions, ce sont des garçons avec un grand cœur.
Et il faut bien s'entendre, hein, parce qu'ils passent énormément de temps ensemble. Sur une Ligue des Nations, ils sont enfermés 3 semaines ensemble. Et eux, ça arrive tous les ans, contrairement à des footballeurs, des rugbymen ou des basketteurs. Donc effectivement, il y a encore plus cet esprit famille qui entoure cette équipe de France de volley. Et puis tiens, Nico, on se fait un petit plaisir. On réécoute ce que ça donnait la finale des Jeux Olympiques de volley l'an dernier à Tokyo. Écoute.
14-12, balle de match. Une médaille d'or pour l'équipe de France. Trevor Klemno au service. Un service flottant. Allez,
jouer,
petit gars à contre pour terminer.
Allez, fais jouer.
C'est d'or, c'est d'or. La France est championne de l'Olympique. La France est championne olympique de volley.
Les Bleus sont champions olympiques, les Bleus sont sur le toit du monde, Nicolas, il y a un challenge demandé quand même, attends, c'est
dehors, pas de faute,
c'était dingue et nous on veut revivre ça en 2024 évidemment, et c'est la suite logique. On le disait, l'équipe de France est très en forme. Est-ce qu'il y a des places à prendre? Est-ce qu'il y a énormément de concurrence justement pour décrocher sa place dans cette équipe de France, ou est-ce que les cadres sont vraiment installés, Nico?
Alors, je pense que les champions olympiques de Tokyo, ils seront peut-être tous, hein, sans doute un joueur ou deux près, parce que ils ont cet objectif. Ils sont encore dans leur prime au niveau de leur carrière, comme des Ervin Engapet, des Kevin Telly qui est absent là sur ce Final 8, qui sera avec nous d'ailleurs ce soir pour commenter la finale face aux États-Unis. Donc ils ont envie de prolonger l'aventure jusqu'au jeu de 2024. Après, il y a de la concurrence, tu en parlais, il y a de la richesse. C'était l'objectif, l'un des objectifs de cette Ligue des Nations, parce qu'on a vu le nouvel entraîneur de cette équipe de France, l'Italien Andrea Gianni, faire des essais. On a vu des nouveaux joueurs briller, comme le libéro Benjamin Diaz, qui sera peut-être le futur génie Grebennikov au poste de libéro. On a vu le central Quentin Jouffroy notamment aussi apporter beaucoup de choses au service. Il faut aussi rappeler que on a des moins de 22 ans qui sont vice-champions d'Europe. Ils ont perdu contre l'Italie il y a une semaine, donc il y a toute cette richesse derrière, mais les places seront évidemment très très cher derrière les cadres que sont Erwin Engapet, Jean Patry, Antoine Brizard. Ils sont tellement au sommet et tant qu'ils auront des résultats, ça sera quand même très très difficile de les déloger. Et puis ils méritent de jouer ces Jeux Olympiques devant leur public. Il y a tellement peu d'occasions de les voir briller en France parce que sur les Ligues des Nations, sur les championnats d'Europe, les championnats du monde, bah, c'est souvent à l'étranger. Donc là, de les voir à Paris,
au
parc des expositions, eux, ils ne. Ouais, ce serait les
y
jeux.
Il n'y a pas de problème de hauteur de plafond pour les expositions.
Non, eux, ils resteront. Ils seront au parc des expositions de Paris. Et puis, voilà, ça sera effectivement l'apothéose finale pour cette génération.
Tout à fait. 13h55, on parle donc de cette équipe de France de volley. Et parlons du présent. Finale de la Ligue des Nations ce soir en Italie face aux États-Unis. Parle-nous de cet adversaire un peu surprise parce que les Américains sont passés complètement à côté à Tokyo l'an dernier. Et là, ils ont réagi en infligeant une volée justement à la Pologne en demi-finale.
Ah ouais, ils sont de retour les Américains après des Jeux Olympiques ratés. Pourtant, ils nous avaient mis une énorme claque à Tokyo, nous battant sèchement 3-7-0 dès le premier match. Après ce premier match, on pouvait dire oh là là, les États-Unis sont partis pour jouer le podium, mais ben ils n'ont pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale, contrairement aux Français qui ont pris en fait la dernière place qualificative dans le groupe devant les États-Unis. On connaît la suite pour l'équipe de France, mais ils sont revenus avec beaucoup d'énergie. Là, ils ont battu cette équipe de France à nouveau dans cette VNL au mois de juin 3-7-2. C'est un adversaire contre qui on a souvent du mal parce qu'il y a pas mal de similitudes au niveau de l'énergie, au niveau de l'efficacité et de la pression sur le service. C'est une équipe qui met beaucoup d'agressivité dans ce domaine. Ils ont archi dominé la Pologne en demi-finale, pourtant double champion du monde en titre. Hein, au service, les Polonais, ils ont explosé. La Pologne a complètement craqué. Et puis, il y a un passeur de qualité, hein, Christensen, qui joue en Russie, des attaquants hors pair. Il y a peut-être un petit peu moins d'expérience, moins de vécu. Ils ont moins eu de succès que l'équipe de France sur ces dernières années. Je l'ai dit, ils n'ont pas passé le cut des poules en
Jeux Olympiques. On est archi favori quand même,
ça
Nico.
Fait longtemps qu'ils n'ont archi, peut-être pas. On est favori peut-être parce qu'on est champion olympique, on a un statut, parce que l'équipe de France joue un volet total et c'est là où peut-être que l'équipe américaine a peut-être un peu moins de force. C'est dans la finesse du jeu, dans la malice. Quand tu vois les Américains attaquer, c'est beaucoup de puissance. L'équipe de France, c'est de la puissance, mais aussi ce qu'on appelle des bidouilles en volée. Tu sais, tu joues les mains du contre, ouais. Tu passes juste derrière le contre adverse pour déposer le ballon derrière le filet. Donc, il y a plus de métier, d'expérience, de finesse pour cette équipe de France.
Et ben voilà, toutes les cartes sont posées pour cette finale de Ligue des Nations ce soir entre la France et les États-Unis. 21h, hein, Nicolas, donc avec Kevin Tilly qui sera notre consultant d'un soir, ça sera magnifique. Match à suivre sur RMC évidemment. On rappelle donc la petite finale, c'est à quelle heure d'ailleurs, Nico, entre la Pologne et l'Italie?
Ça sera 18h, revanche pour l'Italie. Ça sera aussi une affiche énorme pour le volley. Quand je disais qu'il y avait du très haut niveau, la Pologne double championne du monde en titre, l'Italie championne d'Europe en titre avec son public. Ça sera un bel apéritif avant la finale face à la France face aux États-Unis.
Et écoute, j'ai pas le choix, Nicolas, pour te remercier et te dire au revoir. Geoffrey Charpie, mon producteur, m'oblige à passer le son d'Erwin Engapet qui est passionné de rap aussi. Voilà, un peu comme d'habitude, j'étais pas là, mais je suis désolé, on n'a pas les alibis. Voilà, ça peut être le son dans le vestiaire après la victoire en Ligue des Nations, pourquoi pas, Nico?
Il le joue dans la salle depuis le début, il le joue dans la salle. Il est chez lui. Il est chez lui en Italie, Erwin Engapet.
Évidemment. Merci, Nicolas. Reprends des forces ce soir, 21h, finale de Ligue des Nations entre la France et les États-Unis. 13h57 sur RMC. Autre événement à venir, je vous rappelle le Grand Prix de France à partir de 15h avec Jean-Luc Roy, avec Denis Chevrier. Et puis dans un instant, on retourne à Eugene, aux États-Unis, les championnats du monde d'athlétisme et la suite du concours du décathlon pour Kevin Mayer. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.